Cube Radio.
L'histoire se répète dans la NFL. Joe Burrow et Patrick Mahomes ont rendez-vous avant le Super Bowl. Qui des deux jeunes carrières sera en Arizona le 12 février? Et pendant ce temps, les Eagles rassurent leurs partisans avec une victoire sans appel sur les Giants. Est-ce que les 49ers pourront en venir à bout? Les Bills et les Cowboys déçoivent leurs partisans et les questions sont nombreuses pour ces équipes que plusieurs voyaient au Super Bowl. Les feuilletons de la saison morte sont déjà débutés. Où iront Aaron Rodgers et Tom Brady? Est-ce que Dak Prescott et Ezekiel Elliott seront de retour à Dallas? Pour tout savoir, suivez la zone payante. On analyse tous les matchs, tout ça et bien plus dans cette nouvelle émission de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné et oh! Qu'est-ce qu'on entend? Oui! C'est Rocky! Parce que notre super expert et journaliste pour le Journal de Montréal et Journal de Québec fait un pèlerinage à Philadelphie pour assister au match de demi-finale cette semaine. Stéphane Cadorette, salut Steph!
Hey, salut Jean-Nic. Merci de me présenter comme ça. Là, je me sens. J'ai toujours rêvé de rentrer sur un terrain avec la musique de Rocky. Fait que, on va dire que c'est chose faite.
Voilà, enfin une autre dans ta bucket list que tu pourras cocher.
Eh oui.
C'est pas la première fois que tu vas à Philadelphie. Et là, cette fois-ci, c'est pour un match qui a une importance certaine pour les Eagles. Ils ont déjà joué dans ce film-là il y a quelques années. Une deuxième chance pour les Eagles de se retrouver au Super Bowl. C'est quoi l'ambiance de la ville? Comment ça... Je sais que là, le match est dimanche, mais quand même, là, je présume que la ville est football. Là.
Ah oui, c'est sûr. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu parlais de Rocky, puis je suis allé faire mon petit pèlerinage obligatoire à la statue de Rocky. Ouais, j'adore ça. Je suis allé 2-3 fois à Philadelphie, des petites saucettes avant ça. C'était pas vraiment là, pour des longs séjours, mais je me faisais un devoir à chaque fois de trouver une petite demi-heure pour aller me recueillir, entre guillemets, à la statue de Rocky. Puis là, c'est drôle parce qu'hier, quand je suis allé faire un tour, il y avait des intrus à côté de Rocky. Il m'a dit une affaire, Jean-Nic, là, il y avait des espèces de personnages grandeur nature, des Eagles, t'avais Jalen Hurts, t'avais Boston Scott, t'avais Darius Slay, entre autres, dans les marches de Rocky, là, où il faisait sa course dans le célèbre film. Donc, tu vois que la ville commence à être très fébrile. Tu vas manger au restaurant, la serveuse te sert, puis elle s'en va en te disant go Birds, go Birds. Et tout le monde parle des Eagles ici, c'est sûr et certain. Là. Écoute, comme tu disais, la dernière fois, c'est 2017, ça fait 5 ans, ça fait pas si longtemps que ça. Mais quand on sait à quel point, à plus long terme, la ville a souffert là, de pas gagner le Super Bowl avec des grosses équipes par le passé, ben là, on le voit que la fenêtre est là et que les gens sont pas mal craqués.
Incroyable. Quelle belle équipe cette année. On en parlera un petit peu plus tard. On va faire l'analyse de ce match-là. Mais revenons un peu sur les matchs du week-end, si tu veux bien, Steph, parce qu'il y a eu des déceptions certaines. Là, tu sais, je veux dire, encore de finale, à un moment donné, tout le monde est bon, là, puis il faut qu'une équipe passe. Là. Mm-hmm. Mais c'est dans la performance. Des fois, tu sors de ces matchs-là puis il y a beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que, d'après toi, c'est le cas à Buffalo et à Dallas?
Ouais, c'est très, très, très décevant, particulièrement à Buffalo. Tu sais, je veux dire, Dallas, c'était une belle équipe, oui. Je suis pas sûr qu'avant la saison, il y avait des aspirations de Super Bowl. Tu sais, je pense que c'était une très bonne équipe, mais peut-être pas plus. Buffalo, là, franchement, il y a beaucoup de gens qui les voyaient là. Moi, je les voyais gagner le Super Bowl, entre autres, puis j'étais loin d'être le seul. Rappelle-toi de la machine du début de l'année, là, Jean-Nic, quand ils ont massacré les Rams et les Titans coup sur coup. On se disait, cette équipe-là va être dure à battre. Puis lentement, mais sûrement, c'est devenu plus compliqué. La blessure au coude à Josh Allen. Puis, en cours de route, on a découvert que ce club-là n'était pas finalement sans quelques faiblesses. Par contre, de là à faire tout exploser et à dire, là, la fenêtre est finie puis il faut repartir, là, je suis pas pantoute dans cet état d'esprit-là. Je me dis que c'est quand même un club dans les 4 dernières saisons qui a une fiche de 47 victoires, 18 défaites. Ça, c'est tout juste derrière les Chiefs. Les Chiefs, c'est la seule équipe qui a fait mieux. Fait qu'il y a certainement des bonnes choses à Buffalo, mais si tu me demandes maintenant qu'est-ce qu'il faudrait essayer d'améliorer, moi, le premier point, là, c'est que quand cette équipe-là, en fait, est trop dépendante de Josh Allen. T'sais, si Josh Allen et Stephon Diggs, ça marche pas, il y a plus rien qui se passe. T'sais, Gabriel Davis, comme receveur numéro 2, c'est pas assez. Il a été ciblé 93 fois cette saison, seulement 48 réceptions. T'sais, c'est 52% des passes en sa direction qui sont attrapées. Il y a clairement là une chimie qui est pas bonne. Le jeu au sol, ben ça fait longtemps qu'on en parle, ça quand même, Jean-Nic, là, c'est dépendant de Josh Allen. Les chiffres sont bons parce que Josh Allen fausse la donnée avec ses 700 verges au sol. Mais quand tu regardes les porteurs de ballon, est-ce qu'un coordonnateur défensif dans ton esprit a peur de Devin Singletary? Tu sais, c'est pas convaincant. Là, t'as le jeune Moss qui est en train de pousser tranquillement, il a pris plus de place à la fin de l'année.
Mais je pense, de toute façon, les Bills, le jeu au sol, ça les intéresse pas, là. Puis on dirait que ça intéresse pas Josh Allen non plus, à part quand c'est lui qui garde le ballon dans les
mains. De là où je te disais d'entrée de jeu, le club est trop dépendant de Josh Allen. Puis je pense que tout joueur, aussi spectaculaire soit-il, peut pas non plus traîner une équipe à longueur d'année. Tu sais, ça va prendre plus. Puis là où ça a fait très mal, évidemment, la grosse acquisition de la saison morte, c'était Von Miller. T'sais, c'était la pièce manquante au casse-tête. Les Bills appliquaient pas assez de pression. On s'est dit, avec lui, ça va régler le problème. Puis en début d'année, c'était la quatrième meilleure équipe en termes de pourcentage de pression. Depuis sa blessure, j'en parlais la semaine passée, ils ont tombé au 27e rang. T'sais, c'est un énorme morceau. Là, est-ce qu'il va revenir en santé? Écoute, il est dans la mi-trentaine. Déchirure du ligament croisé antérieur subie pas mal vers la fin de l'année. Là, c'est pas très bon pour l'an prochain. Puis là, on vient de parler des porteurs de ballon, d'un receveur numéro 2. Ça prend du pass rush. Mais tu te retrouves avec une équipe qui est au-dessus du cap. Là. Elle est au-dessus du cap en ce moment. Là. Fait que, je te dis pas que la fenêtre est fermée pour les Bills, mais c'est à peu près la même équipe qu'on va voir, là, à quelques soustractions et quelques additions près. Je pense pas que l'équipe va changer bout pour bout. C'est peut-être dans la philosophie qu'il va falloir apporter des changements, là, être moins dépendant de Josh Allen, essayer de le protéger contre lui-même aussi un peu plus. Tu sais, tu l'as vu, là, depuis sa blessure au coude, ça a été un excellent corps arrière quand même, mais beaucoup plus de revirements, tu sais. Donc, il faut arriver à le protéger contre lui-même un petit peu plus.
Bon, allons-y avec les autres équipes rapidement. On a parlé de Dallas. Dallas, est-ce que là, y a, tu sais, on s'entend que ça finit un peu dans l'amertume là aussi. Ouais. Même si tu me dis, on les voyait pas au Super Bowl. Plus la saison avançait, plus il y a des gens qui les voyaient au Super Bowl. Puis là, plus Dak Prescott avait des performances régulières, plus on se demandait est-ce que Dak Prescott, est-ce que c'est Dak Prescott qui peut faire perdre le match à lui tout seul ou le gagner à lui tout seul?
Ouais, c'est ça. Les Cowboys, ben oui, c'est une excellente équipe. Ce qui va être compliqué dans leur cas, c'est que la division est très, très forte. Là. Honnêtement,
on disait pas ça
n'importe quoi. Non, on disait pas ça, mais les Eagles sont là quand même pour un bout, je pense, là, à moins d'un effondrement monumental. C'est sûr qu'ils ont des vétérans, mais ils ont une tendance à bien repêcher les Eagles et à faire les bons moves côté transaction pour se refaire des forces. Donc, je suis pas inquiet de leur côté. T'as les Giants en ascension, puis je dirais même jusqu'à dire que les Commanders ont montré des belles choses cette année, que c'est pas peine perdue de leur côté. Fait que ça va être une division très difficile à aller chercher pour les Cowboys. Là. Contrairement, tu regardes aux Bills, je pense que les Bills sont encore les rois l'an prochain dans la division Ouest. Les Cowboys, donc, il manque clairement un receveur numéro 2, même problème que les Bills. Là. CeeDee Lamb fait tout seul. En dehors de lui, là, il y a à peu près rien. Puis t'as un problème au niveau des porteurs de ballon, là, soudainement, parce qu'on disait, bon, ce qu'ils vont faire, les Cowboys, ils vont laisser aller Zeke Elliott, ils vont prolonger Tony Pollard, mais là, Tony Pollard vient de se casser la jambe. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que tu réfléchis deux fois avant d'y donner un gros contrat? On a vu comment ça a tourné là, pour certains joueurs dans cette position-là par le passé.
Malheureux pour Pollard, pareil.
Ouais,
il a une belle saison. Il courait hungry.
Oui, puis il semblait enfin avoir sa chance. T'sais, ça fait 2 ans qu'on dit les Cowboys devraient donner plus le ballon à Pollard. Là, ça s'en venait enfin. Il devenait vraiment le numéro 1. Il semblait avoir le champ libre pour l'an prochain. Puis non, il arrive cette blessure-là. Il y a des points d'interrogation là, dans mon cas pour les Cowboys, c'est sûr et certain.
Bon, un petit mot sur les Jaguars là, qui ont quand même bien performé pendant les séries, plus qu'on pensait. Ils ont fait leur place aussi au soleil d'ailleurs. Est-ce que tu leur quel conseil tu leur ferais pour préparer la saison prochaine?
Ben, les Jaguars, ce qui est intéressant, c'est que certains vont dire « Ouais, il manque un receveur », mais il faut pas oublier une chose, Calvin Ridley va jouer l'an prochain. C'était un numéro un à Atlanta avant son histoire de pari illégal, qui a valu une suspension d'un an. Oui, il va peut-être y avoir de la rouille au départ, mais ça reste que c'était un receveur qui s'était établi là, parmi les bons de la Ligue. Il va être en duo avec Christian Kirk. Tu as Travis Etienne dans le char arrière, Trevor Lawrence qui a pris beaucoup de galons cette année. Cette équipe-là, avec quelques ajouts en défensive, va pouvoir être très menaçante. Moi, c'est mon opinion, là. Puis, tu sais, t'évolues dans une division où il y a les Colts, les Texans et les Titans qui se cherchent un peu. C'est une division qui est plus que prenable. Donc, on risque de revoir les Jaguars en série, là, dès l'an prochain. C'est du côté défensif, là, vraiment, que j'irai chercher des renforts.
Et les Giants, on a l'impression qu'ils ont... C'est l'équipe qui surpris grâce à une nouvelle équipe d'entraîneurs, mais on se demande, personne ne les voyait plus loin que ça. Là.
Non, c'est ça. Ils ont fait le bout de chemin qu'on même plus que je pensais. Personnellement, je les voyais même pas passer à la première ronde. Là, fait que chapeau. Là où c'est inquiétant un peu du côté des Giants, c'est que tu as les deux gros agents libres, là, Daniel Jones et Saquon Barkley. J'ai l'impression qu'on va prioriser un contrat à Daniel Jones. C'est pas impossible que Saquon Barkley s'en aille là, dans ce contexte-là. Est-ce qu'on va pouvoir garder les deux? Si oui, tant mieux pour eux autres. Là. Faut faire attention aussi. Barkley, oui, il a connu une excellente saison, mais
après quatre mauvaises.
Puis l'autre affaire, c'est que on sait ce que ça donne souvent le deuxième gros contrat d'un porteur de ballon. T'sais, il roule sur son contrat recrue. Après ça, il arrive au deuxième. Puis souvent. Ça donne une bonne année ou deux, mais pas plus. Là. Fait qu'il faudra pas exagérer si on veut s'attacher à Barkley, dans leur cas.
Merci, Stéphane. Après la pause, on va parler beaucoup de choses. On va parler de Tom Brady, on va parler de Patrick Mahomes, on va parler de Brock Purdy, beaucoup de carrières, mais aussi quelques partisans endeuillés. On va revenir sur les performances du week-end quand même. Puis aussi, est-ce que il y a des nouveaux entraîneurs qui pourraient attirer des quarts arrière entre la retraite et leur nouvelle équipe. Bougez pas après la pause, c'est la question des auditeurs.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Vous êtes de retour à la zone payante. C'est le moment maintenant des questions des auditeurs. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, en compagnie de Stéphane Cadorette, en direct de Philadelphia.
Philly, baby.
Chanceux. On va voir si on va avoir un bon match. En attendant, répondons un petit peu aux questions des auditeurs, si tu le veux bien.
Ouais.
On va commencer avec Jérôme, un de nos réguliers, qui nous dit « Patrick Mahomes a démontré beaucoup de courage et de ténacité suite à sa blessure à la cheville. Avez-vous des exemples de performances de joueurs de la NFL qui ont joué en dépit de blessures et qui ont démontré autant de courage et de ténacité? »
Ouais, ben j'ai pas fait de recherche, mais il y en a deux, moi, qui me viennent en tête, là, vite comme ça. Moi, je me rappelle de Philip Rivers. Je sais que c'est pas un grand favori de bien des gens, là, parce qu'il lançait avec sa motion tout croche. Mais ça reste qu'il y a eu une très belle carrière et que je me souviens en finale de conférence contre les Pats, je me souviens plus si c'était 2006 ou 2007, mais il avait joué sur un torn ACL, donc une déchirure du ligament croisé antérieur là, dans le genou.
Ça, c'est quelque chose.
Et imaginez comment ça devait être pénible. Tu sais, on voit cette blessure-là régulièrement dans la NFL, puis ce que ça signifie, c'est saison terminée. Dans le cas de Rivers, il s'était accroché parce que de toute façon, c'est pas un corps arrière qui utilisait beaucoup ses jambes. Mais quand même, là, moi, je me rappelle de cette prestation-là, puis de me dire comment c'est possible humainement qu'il termine ce match-là. Donc, chapeau à Rivers. Puis l'autre, ben, c'est pas quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus, parce que je suis trop jeune pour ça, mais en 1979, ça a tellement fait l'histoire dans la NFL, ça. J'ai vu des émissions là-dessus d'NFL Network, tu sais, des genres de football live puis des trucs comme ça sur Jack Youngblood, qui était un ailier défensif des Rams, qui avait joué le Super Bowl avec la jambe cassée. Tu sais, ça fait partie de la légende. Tu te dis comment ça se peut. Il s'était cassé la jambe la semaine d'avant, puis ça a été tenu secret. Personne ne le savait. La plupart de ses coéquipiers le savaient pas. Il avait fini par le dire le jour même à certains coéquipiers en disant « OK, mettez de la pression là parce que ça va peut-être être un peu plus difficile de mon côté. » Puis malheureusement, on aurait voulu qu'il gagne. Quand tu écoutes une histoire de même, tu as frisson, puis tu te dis « ça se peut pas, le gars va gagner. » Mais non, il avait perdu contre les Steelers, les Rams. Mais vous irez voir ça, Jack Youngblood, là, sûrement qu'en googlant ou en YouTubant, vous allez trouver des histoires sur ça. C'est quand même assez fascinant.
Christian de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, entre Portneuf et Québec, nous pose la question. J'ai une question concernant Mr. Irrelevant. Est-ce que le fait que le tout dernier joueur repêché en 2022 soit aussi solide pour le moment et qu'on parle déjà de lui comme le partant des Niners pour 2023 est l'équivalent d'une claque au visage de toutes les équipes de recruteurs de la NFL, incluant celle de San Francisco? Est-ce qu'il y a d'autres Brock Purdy qui végètent présentement sur les practice squads ou comme QB3 dans d'autres clubs?
Et ça va être dur à savoir s'il y a d'autres Brock Purdy parce qu'on les voit pas venir, ces gars-là. T'sais, ça me fait un peu penser quand Kurt Warner est arrivé en 99 avec les Rams. Quand Trent Green s'est blessé, tout le monde se disait « ça y est, les Rams avaient une équipe prometteuse, mais là, la saison est fichue, ça n'a pas d'allure. » On le connaissait pas, Kurt Warner. C'était un gars que la saison d'avant, il était troisième corps arrière des Rams, t'sais. Donc, des carrières comme Purdy ou d'autres, c'est dur à déceler là, dans un alignement. Tu regardes le deuxième, le troisième, des fois le quatrième carrière, tu te dis, est-ce que ce gars-là a vraiment quelque chose? C'est dur à voir là, comme ça. Là. Pour ce qui est de, est-ce que c'est une claque au visage? Moi, je dirais que non, parce que, écoute, tu peux pas toutes les détecter, les talents. Il y en a tout le temps qui passent à travers les mailles du filet. C'est un choix de septième ronde. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il y a 31 équipes qui se sont plantées. À un moment donné, tu peux pas dire, bon, ben les dépisteurs des 31 équipes sont toutes pourries. Mettez-moi ça tout dehors. Ils ont pas
vu ça. Il était sur la liste, là. Tu sais, il a été repêché, là.
Oui. Ben, il a été repêché, mais en septième ronde, là.
Oui, mais il a été repêché. Il y a plusieurs joueurs qui le sont pas, qui jouent aussi dans la NFL.
Est-ce que les recruteurs auraient pu voir quelque chose en lui? Peut-être. T'sais, le fait qu'il a été quand même gagnant à Iowa State, qu'il a fait performer une équipe qui n'est pas nécessairement performante.
Même Nick Saban, a levé le nez dessus.
Ben, c'est ça. Donc, c'est faut. Moi, de là à dire, c'est une claque au visage, je comprends la question, là, mais je pense pas qu'il faut blâmer nécessairement les recruteurs parce qu'à un moment donné, c'est comme il y a 31 autres équipes, puis même les Niners, écoute, s'il avait été si bon que ça, Brock Purdy, ben, il aurait pu le repêcher en troisième ronde aussi. Là. Donc, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de majeur que les gars voyaient en lui. Tu sais, il est un peu chenu. Il n'y avait pas nécessairement un grand bras, des grandes qualités athlétiques. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a du leadership, il est calme, il est capable de faire les gros jeux, il semble pas incommodé par la pression. Maintenant, j'ai hâte de le voir là, contre une équipe comme les Eagles. Tu sais, contre les Cowboys, il a été correct, mais je dirais que c'était de loin son match le moins convaincant à date. Là. Donc, bien hâte de le voir contre les Eagles.
Aussi, ici à la zone payante, on est souvent devenu d'une espèce de groupe thérapeutique là, pour les gens qui sont déçus de leur équipe. Puis c'est le cas aussi avec Simon qui nous écrit souvent pour reparler de ses Giants. On va en profiter pour lui envoyer nos meilleures pensées, les Giants qui ont été éliminés en fin de semaine.
Sympathie.
Ben oui. Donc, il dit qu'il rejoint les clubs des endeuillés, mais qu'il y a quand même de l'espoir pour la saison prochaine. Puis dans le dernier podcast, il m'entendait dire que j'étais déprimé et que je voulais peut-être me lancer dans l'équinerie, là, avec les chevaux.
Le polo.
Voilà. Mais lui, il pensait que je m'en allais avec les Broncos. Non, quand même pas, là. On va pas changer d'équipe, mais peut-être suivre un autre sport quand on est trop déprimé, c'est une bonne solution. Puis là, il nous dit, parlant des Broncos, est-ce que c'est moi ou nous avons pas eu le décompte final de la course entre les passes de toucher de Russell Wilson et son nombre de salles de bain? Oh. C'est quand même important. Excellent rappel, Simon.
Mais occupe pas. Excellent. Là, Jean-Nic, il va falloir se mettre des rappels comme ça parce que j'aime pas quand on manque de rigueur.
T'as raison. Puis
c'est un œil au beurre noir pour la zone payante.
Comme dirait Justin Trudeau, je me suis déçu moi-même. Alors, on va...
Je pensais pas qu'on citerait Justin Trudeau dans cette émission-là.
On va faire le bilan de cette course endiablée qui a eu lieu tout au long de l'année. En effet, là, Russell Wilson, rappelons-le, a fait l'acquisition d'une propriété comportant 12 salles de bain. Et jusqu'à la fin de la saison, il y avait une lutte féroce entre le nombre de passes de toucher qu'il avait effectuées et le nombre de salles de bain dans sa maison, et il a fini en force. Russell Wilson, Broncos Country, let's ride, a terminé avec 16 passes de toucher. Il a laminé ses toilettes. Alors voilà pour le suivi là-dessus. Simon, on va y aller maintenant avec ta question. Parmi les équipes ayant joué la semaine dernière, laquelle vous a le plus impressionné, laquelle vous a le plus déçu durant son match?
La plus impressionnée, moi, je serais curieux de t'entendre aussi, Jean-Nic. Moi, c'est les Eagles, honnêtement. Là. Je comprends que l'opposition était pas extraordinaire. Je m'excuse, Simon, pour tes Giants. Là, ça reste qu'on s'attendait à un résultat comme ça. Mais écoute, j'ai pas vu de faiblesse apparente là, dans cette équipe-là. Une ligne offensive complètement dominante, 268 verges au sol ou quelque chose comme ça, il n'y avait pas de pression sur Jalen Hurts. Au contraire, en défense, on applique une tonne de pression. La tertiaire qui tenait receveur tellement longtemps que ça finissait par créer des sacs. Puis tu regardes, cette équipe-là est tellement bien dirigée. La preuve, c'est que là, les deux coordonnateurs se font courir après par les autres équipes là, qui cherchent un entraîneur-chef. Donc, c'est comme si en ce moment, je vois pas comment cette équipe-là a quelque chose où tu te dis « Ah, tel élément, il faut absolument exploiter ça du côté des Eagles, c'est leur faiblesse claire. » Pour moi, il y en a pas. Puis pour la déception, avant de te passer le crachoir, parce que j'aime ça comparer, voir si on a les mêmes constats, là, mais moi, c'est les Bills, là, j'en parlais tantôt, l'attaque qui a marqué seulement 10 points. Franchement, là, c'était dur de s'attendre à ça. L'attaque, d'ailleurs, qui a régressé pas mal en cours de route. Puis, j'ai pas aimé voir les Bills perdre la bataille physique là, des deux côtés du front. Il y avait une chance là, avec la ligne à l'attaque éclopée des Bengals. Trois partants qui étaient absents. On n'a pas vu là, de ce côté-là du tout de joueurs performants en défensive du côté des Bills pour aller appliquer la pression malgré la situation. C'est ça. Pour moi, c'est ma déception.
Pour l'équipe qui m'a le plus impressionné, moi aussi, les Eagles m'ont énormément impressionné. Là. Ils sont sérieux. Là. Ils sont pas là pour faire une petite balade. Là. Ils sont vraiment là pour aller chercher le gros trophée. Mais je veux quand même juste envoyer une petite fleur aux Jags. Là, parce que ils ont donné un match quand même. Je comprends que Patrick Mahomes était un peu sur une jambe, mais quand même, là, ils ont donné un match à Kansas City. Il était bien préparé. Ils ont tenu en haleine jusqu'à la fin du match. Ils ont bien géré le match. J'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont donné tout ce qu'il y avait. Puis ils peuvent partir. Tu sais, on voyait Trevor Lawrence à la fin partir puis attendre ses coéquipiers. Je pense que ils étaient fiers de leur game malgré tout.
Qu'est-ce qui serait arrivé si Jamal Agnew avait pas échappé le ballon proche des buts?
Voilà.
Il était à pas grand-chose près. On peut pas aller loin avec des si, mais il reste que c'est un jeu qui a changé le cours du match.
L'équipe qui m'a le plus déçu, mais on dirait que le match 49ers-Cowboys était décevant. Tu sais, je pense que les deux équipes ont pas joué à la hauteur de leur talent. Les Niners ont fait le minimum pour gagner. Écoute, là, Dallas a fait 12 points. Fait que... Il n'y avait pas besoin de beaucoup de points. On peut bien parler de Brock Purdy par-ci, par-là, là, mais il est en bas de 200 verges là, avant que George Kittle fasse un catch
Quel attrapé, ouais.
Acrobatique. Fait, je pense que les deux équipes m'ont déçu. J'ai pas trouvé que ce match-là était un grand match, mais il fallait qu'une équipe gagne. C'était les Niners. Je pense que c'était la meilleure équipe sur le terrain ce match-là. Voilà, maintenant... Une question de René. Est-ce qu'on va avoir 6 mois de spéculation sur Brady et Rodgers ou ça va se régler rapidement selon vous?
Six mois, non, mais deux mois, je serais pas surpris. Là, je pense qu'il va falloir attendre mars. Parce que premièrement, là, c'est est-ce qu'ils vont prendre leur retraite ou pas? Le feeling qui se dégage, mais ça, on peut se tromper, là, mais le feeling qui se dégage, c'est que les deux semblent vouloir continuer, puis que probablement que ça va être ailleurs.
Mais Rodgers est sous contrat.
Rodgers est sous contrat, sauf qu'on parle de plus en plus qu'il pourrait être échangé, qu'il y a des équipes qui sont prêtes à donner...
T'as-tu vu le prix qu'il demande, là? En tout cas, la rumeur, c'est deux premiers choix repêchage.
T'sais. Ouais. Si t'es les Jets... Puis que tu as une équipe comme ils ont en ce moment avec une défensive qui est prête à rivaliser avec n'importe qui. Des jeunes morceaux à l'attaque comme Garrett Wilson, Breece Hall et une couple de joueurs de ligne offensive qui sont sur leur contrat de recrue. Est-ce que tu te dis c'est le temps de faire sauter à la banque, de donner des choix et d'y aller all-in une année ou deux avec Aaron Rodgers? C'est peut-être pas fou, mais je ne sais pas pourquoi... peut-être que Rodgers, ça ne l'intéresse pas d'aller jouer là non plus. Il y a ça à considérer. C'est lui qui va avoir le gros bout du bâton. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va être échangé? S'il est échangé, où va-t-il accepter d'être échangé? Là, il y a des rumeurs qui disent que les Jets sont intéressés à amener Nathaniel Hackett comme coordonnateur offensif. Il y a une très bonne relation avec Rodgers. Est-ce que ça pourrait l'attirer à New York? T'sais, il y a tout ça qu'il va falloir surveiller. Là, il y a un jeu de domino qui va commencer à tomber dans les prochaines semaines. Mais la première chose, ça va être, est-ce que Brady et Rodgers veulent continuer? Si oui, ben là, où? Le Brady, on en a parlé quelques fois là, dans l'émission les dernières semaines. Là, moi, j'ai dit souvent que je le voyais avec les Raiders. Écoute, pourquoi pas les Panthers de la Caroline aussi? C'est une option là, qui va être probablement considérée. Là, parce
qu'est-ce que tu penses de la rumeur comme quoi l'arrivée d'O'Brien à Foxborough pourrait inciter Brady à finir sa carrière avec les Pats?
Ça me rentre pas dans la tête, ça. On sait jamais, là. On a vu des choses encore plus folles que ça dans la NFL, mais Brady puis les Pats, bien, surtout Brady puis Belichick, ça avait été un divorce assez difficile quand même. Est-ce que Belichick veut revoir Brady? Est-ce que Brady veut revoir Belichick? Tu sais, je pense pas que tout ça dépend de Bill O'Brien. T'sais, tant qu'à ça, Josh McDaniels a été son coordonnateur pas mal plus longtemps, là. Est-ce qu'il serait plus tenté d'aller avec les Raiders? Je le sais pas. Mais maintenant, écoute, sait-on jamais, ça serait tout un retour à Foxborough. Mais pour l'instant, moi, j'arrive juste pas à y croire.
On parle, puis juste pour finir là-dessus, là, tu sais, c'est quoi l'horizon pour se décider? Parce que, tu sais, la signature des joueurs autonomes, c'est au mois de mars, si je me
trompe. Ça va commencer le 15 mars officiellement, puis il y a une période de négociation de 48 heures avant ça. Donc, le 13 mars, là, toutes les grosses nouvelles concernant les agents libres vont se donner. Dans le cas de Rodgers, il n'est pas agent libre, tu le mentionnais, il est encore sous contrat, donc ça pourrait arriver plus tôt. La période des échanges commence aussi le 13 mars, mais on l'a vu par le passé. Rappelle-toi d'Alex Smith une année, là, il avait été échangé des Chiefs aux Commanders pendant la semaine du Super Bowl. Donc c'est un échange officieux, là. Ça, c'est devenu officiel le 13 mars. Mais on le savait quand même quelques semaines avant. Là. Donc, si Rodgers a été changé, ça pourrait arriver en février. Ça pourrait arriver vite.
Jean-François nous demande, est-ce que Josh Allen est l'homme de la situation à Buffalo? Beaucoup de doutes là, dans les partisans des Bills.
Non. Josh Allen, je pense pas là, qu'il faut commencer à le pointer du doigt. Il est pas sans défaut. Les revirements cette année, ça a été trop. Faut pas oublier sa blessure, comme je le mentionnais. Il a joué toute la saison avec une blessure au coude. Ça doit pas être évident comme corps arrière, là. Mais je pense que c'est clairement pas lui le responsable des problèmes des Bills. Au contraire, moi, je pense qu'il faut arrêter de le prendre pour Superman. Essayer de mieux l'outiller, lui en demander un peu moins. Puis lui en demander un peu moins, ça veut pas dire de plus lui en demander. Ça veut juste dire, OK, on met pas 17 matchs sur tes épaules. On va en mettre quelques-uns sur tes épaules quand la situation va le commander, mais tu peux plus tout gagner en étant Superman. On va te donner les ressources pour le faire. Le problème, comme je le disais, c'est l'argent. Là. Les Bills n'ont pas de l'argent acheté par les fenêtres en ce moment, donc c'est ça qui va être le défi.
Et pour poursuivre, Hugo qui nous parle, qui lui aussi, hein, je pense, un partisan des Bills qui a vécu des émotions depuis l'élimination de son équipe, nous pose la question. Deux questions. Est-ce que Coach McDermott, et ses acolytes sont toujours les hommes de la situation à Buffalo? Et la fenêtre des Bills pour la grande finale est-elle toujours là ou bien elle est passée?
Ben, moi, je pense que oui, c'est encore les hommes de la situation. C'est certain que si on arrive l'an prochain avec une autre déception rapide, probablement que ça va être la fin pour McDermott. Tu sais, il est condamné à gagner avec cette équipe-là. Tu peux pas dire on va prendre sa fiche globale, puis il est bon, puis tout ça. Moi, je continue de penser que c'est un bon coach. Mais là, faut que les Bills donnent des résultats. Puis le problème, c'est que ça va jamais être évident de gagner dans cette conférence-là. Là. Autant pour les Bills que les Chiefs, que les Bengals. Je pense que les Chargers n'ont pas encore atteint leur plein potentiel, ça s'en vient. Tu sais, ça me fait penser un peu aux années 90, quand je commençais à suivre le football, puis que, tu sais, on se disait les Packers, c'est une grosse équipe, les Niners, c'est une grosse équipe, mais pourtant, ils gagnaient à peu près jamais. Ils ont gagné un Super Bowl chaque dans les années 90, parce qu'il y avait les Cowboys aussi à tasser du chemin. Tu sais, c'est pas évident quand il y a des grosses, grosses équipes comme ça. En ce moment, les Chiefs, 5e présence de suite en finale de conférence. T'sais, c'est pas mal eux qui ont le dessus souvent dans la mêlée. C'est un gros, gros défi d'évoluer dans cette conférence-là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le réflexe, moi, de me dire si j'étais chez les Bills, je pitcherais tout à terre puis je recommencerais avec des nouvelles fondations. Je pense que les morceaux sont là, il y a des améliorations à apporter, mais c'est pas une bonne idée de paniquer à ce stade-ci.
Fait que la fenêtre n'est pas fermée pour toi.
Là. Non, pour moi, elle n'est pas fermée. C'est juste qu'elle n'est pas ouverte beaucoup à cause de la qualité des équipes à côté.
Et on revient sur Bill O'Brien parce que Julien nous pose la question. Est-ce que Bill O'Brien, c'est ce que ça prend pour donner du pep à Mac Jones ou bien les Pats? Il n'y a plus rien à faire avec ça. un autre partisan un peu maussade.
Oui, ça fait une couple qui dit qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, les Pats? C'est un bon pas, là, O'Brien. C'est certain que tout ce qui est pas Matt Patricia et Joe Judge pour diriger le jeune Mac Jones, ça peut pas être pire que c'était, là. Là, t'amènes Bill O'Brien, qui a de l'expérience avec les Pats. Ça peut pas être pire, comme je le disais. Maintenant, t'auras beau être le meilleur coordonnateur offensif au monde. Il y a pas de joueurs qui font peur dans cette attaque-là. C'est ça, le problème. Si t'es une défense adverse, t'es le coordonnateur défensif adverse, Jean-Nic, qui, dans cette attaque-là, toi, tu te dis cette semaine, ce joueur m'empêche de dormir?
Ben, ils ont eu du succès au jeu au sol pendant quelques moments pendant la saison, mais de là m'empêcher de dormir, non.
Non, non plus. Tu sais, c'est ça. Ils ont un jeu au sol correct, là, le fun. Mais il n'y a pas une bête là-dedans que je me dis, hey, lui, là, comment on va faire pour le freiner? Receveur, il n'y a rien.
Devante Parker a toujours été sur la marge là, de faire de lui un receveur numéro un dominant, mais souvent blessé.
Souvent blessé, souvent effacé aussi. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui prennent le contrôle. Moi, pour moi, c'est ce que ça me dit sur les Patriots. Ça me dit Bill O'Brien, bonne addition, t'amènes de l'expérience, t'amènes un gars qui sait ce qu'il fait. C'est encourageant. Mais il faut maintenant des joueurs dans cette équipe-là qui vont empêcher l'adversaire de dormir un peu, qui vont le forcer à se préparer en ciblant un joueur précisément. Il n'y a pas assez de gars qui font peur dans cette attaque-là pour l'instant.
Et on arrive au moment de l'émission. C'est le moment, Robin. Robin qui nous envoie une question encore cette semaine, on le remercie de toujours penser à nous et il nous pose une question que je me suis posée moi aussi pendant la fin de la saison. Pouvez-vous m'éclairer sur la question des arrêts de jeu dans la NFL? On sait que chaque coach a droit à 3 timeouts par demi, mais certains sont de 30 secondes et d'autres durent quelques minutes. Est-ce le moment de la partie qui détermine leur longueur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts de jeu? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts dans un match? Là aussi, des fois 30 secondes, des fois quelques minutes. Est-ce que c'est la pub qui détermine le nombre et leur durée? Comment ça fonctionne? Merci.
Qu'est-ce que
tu réponds, Robin?
C'est simplement une question que les réseaux de télé emmènent très large. Puis, certains diront avec raison, ils mettent tellement d'argent dans la NFL que peut-être qu'il faut qu'ils emmènent large, justement. Mais en début de match particulièrement, là, la plupart des timeouts vont être d'une durée de 2 minutes. Même si officiellement, c'est 30 secondes, mais c'est parce que les réseaux en profitent pour passer à la pause commerciale. On le sait qu'il y a beaucoup de pauses, surtout en début de match. Puis à un moment donné, tu arrives dans un stade du match où pas mal toutes les cases de publicité ont été passées. Puis là, ben, on va entendre l'officiel préciser que c'est un 30-second timeout, donc un timeout de 30 secondes. pour que le flow du match là, continue, que ça se déroule rondement, on veut pas étirer indûment là, la durée de la partie. Donc là, les temps d'arrêt vont être vraiment plus casés sur 30 secondes. Habituellement, ben c'est ça, l'arbitre va le spécifier à ce moment-là. Donc, il y a une question beaucoup de publicité et de réseau télé là-dedans. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'arrêts de jeu et que les timeouts souvent sont plus longs en début de partie.
C'est ce qui conclut les questions des auditeurs. Merci d'avoir participé encore cette semaine. N'oubliez pas, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, Twitter ou Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre site, ben en fait sur la page Facebook, Nos précieux conseils Fantasy Football. On pose chaque semaine la question si vous avez des questions pour nous durant l'émission. Aussi, on poste souvent l'émission, donc vous pouvez aller chercher là votre épisode de La Zone Payante. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel. À quelle adresse?
La Zone Payante à commercialquebecormedia.com. Puis il y en a quelques-uns là, cette semaine qui nous avaient envoyé des questions qu'on n'a pas pu répondre. Il y en avait quand même beaucoup. On va essayer dans la mesure du possible d'y revenir la semaine prochaine.
Après la pause, c'est les demi-finales. Qui se rendra au Super Bowl? Bougez pas, on fait nos prédictions après ceci.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous êtes sur La Zone Payante. Bienvenue si vous vous joignez à nous pour la première fois. Je sais qu'il y a toujours plus d'intérêt quand arrive la fin de la saison, et particulièrement pendant les séries. Et c'est le moment, avec Stéphane Cadorette, de faire les prédictions pour le match, les deux matchs de la fin de semaine.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee it.
Alors, Steph.
Pas facile.
Non, là, on a deux duels où les cotes sont très basses, là, genre ouais. Les deux équipes favorites sont par 1.5, 2.5, tout dépendant des cotes en ce moment, ça bouge.
Ça, si vous n'êtes pas parieur, tout ce que vous avez à comprendre de ça, c'est que les preneurs au livre sont indécis. Là. Il y a beaucoup de mouvements, même en début de semaine, les Chiefs étaient favoris, si je me trompe pas. C'est passé du côté des Bengals, donc... Tout le monde est mêlé. Personne ne sait à quel sens vouer. Ça va être assez compliqué.
Fait que tout le monde est prudent aussi.
Ouais.
Maintenant.
Ouais.
OK. Moi, je suis 9 en 10. Je ne veux pas me vanter.
Moi, je suis 6 seulement. J'ai eu 3 en 4 la semaine passée, mais j'avais eu 3 seulement la première semaine. Fait que ça m'a fait mal.
Bon. Là, c'est les games qui sont importantes. Alors, si t'es ça, je vais te donner 2 points. Pas pire.
C'est mieux ça que 2 piastres.
C'est de la générosité incarnée, mon cher. OK. Commençons avec. On va aller dans notre match où le lieu sera neutre. Allons à Atlanta.
Pas Atlanta, là. Il joue à Kansas City parce que c'est...
Ça a été Buffalo.
Ouais, Atlanta, c'était seulement si c'était Bills contre Chiefs.
Ah oui, c'est
Chiefs.
Pour ça que Joe Burrow a fait une blague sur le remboursement des
tickets. Ouais, voilà, c'était bien placé ça d'ailleurs.
Donc, on s'en va à Kansas City pour recevoir les Bengals. Vas-y, je te laisse la parole.
Bon, ben écoute, ce qui va retenir l'attention, évidemment, c'est l'état de santé de Patrick Mahomes. On en parlait plus tôt, il a joué en dépit d'une blessure à la cheville. Puis ce qui est particulier, c'est une entorse sévère. Là, on parle d'un « high ankle sprain » en langage de football. Habituellement, là, tu regardes les gars qui subissent une blessure comme ça, ils vont rater, je te dirais en moyenne, un bon 2-3 semaines. Là, Mahomes va jouer sur une patte. Les gens vont trouver que ça parle trop de Mahomes probablement cette semaine, mais écoute, c'est quand même le joueur le plus important du côté des Chiefs. On sait pas dans quel état il va être. Je regardais une statistique qui m'a franchement allumé là, sur CBS. Dans les 5 dernières années, les corps arrière en série ont lancé 37 passes de toucher en dehors de la pochette. Tu sais, les corps arrière, j'en ai qui s'évadent de la pochette, qui font 3-4 pas de danse. qui lance un peu en déséquilibre, puis pouf, rejoignent quelqu'un dans la zone des buts. Donc, 37 passes de toucher de l'ensemble des corps arrière dans les 5 dernières années en série. Du lot, Mahomes en a récolté 15. Il n'y a pas un autre corps arrière hors de la pochette qui en a lancé plus que 5. Moi, ça m'inquiète franchement. Honnêtement, là, Mahomes, qui n'est pas capable de manœuvrer comme il manœuvre d'habitude, Mahomes, qui n'est pas Mahomes, ça me fait franchement peur du côté des Chiefs. À quel point là tu peux taper sa cheville, puis donner une injection, puis qui donner un remède de cheval pour qu'il sente rien. Je suis pas convaincu. On l'a vu tout le match contre les Jaguars, il boitait. Là, il va avoir un club devant lui qui est capable d'appliquer beaucoup plus de pression que ce que les Jaguars sont capables de faire. Tu sais, t'as Trey Hendrickson, t'as Sam Hubbard, le milieu de la ligne défensive des Bengals avec DJ Reader puis BJ Hill. C'est une force de la nature aussi. Donc, la pression risque de venir de partout. Puis le coordonnateur défensif des Bengals, je suis fasciné que personne n'en parle pour un poste d'entraîneur-chef parce que vraiment, il fait du boulot incroyable. J'ai l'impression là, que Mahomes va être dérangé tout le match. Ce qui fait peur, par contre, du côté des Bengals, ben ça reste la ligne à l'attaque. Magané, là, la semaine passée, ça n'a pas paru. Ils ont extrêmement bien joué, les réservistes des Bengals. Par contre, je te dirais que les Chiefs, c'est un défi beaucoup plus gros que les Bills en termes de pression, là, tu sais, ne serait-ce qu'avec Chris Jones au milieu. C'est quand même la défense qui a obtenu le deuxième plus haut total de sacs dans la NFL cette saison. Donc, la pression va être plus forte que face aux Bills. Mais je me dis, Joe Burrow, l'an passé, s'est rendu au Super Bowl malgré sa ligne à l'attaque. Rappelle-toi, contre les Titans, il avait été victime de 9 sacs puis il avait gagné. Il y en a vu d'autres, Joe Burrow. C'est un corps arrière qui a été habitué à ça. Il va dégainer très, très, très rapidement. Je pense que ça va être ça le plan de match. Des courtes passes, va prendre ce que la défensive donne. Pour te montrer comment Joe Burrow a transformé cette franchise-là, il y a 5 victoires en série en 3 années comme corps arrière. Puis les Bengals avaient 5 victoires en série en 52 ans avant. Fait que tu sais, il a transformé littéralement cette équipe-là. Il est 3-0 contre les Chiefs. Il est 7-0 en janvier. Il est 3-0 contre les
Chiefs avec Patrick Mahomes comme carrière, là, pas avec
Chad Henne ou un autre. Là.
Exact.
Il est 3-0 en série sur la route en carrière. C'est un gamer, autrement dit. Moi, j'y vais avec les Bengals dans ce match-là. Écoute, est-ce que ma prédiction serait différente si Mahomes était sur deux pattes? Probablement, mais c'est le facteur là, que je peux pas l'écarter de l'équation. Il y en a qui vont dire c'est trop facile de se limiter à ça. Mais si Mahomes n'est pas le magicien Mahomes habituel, on n'a pas les mêmes Chiefs devant nous. Donc, victoire des Bengals de façon très serrée.
OK. On ne se chicanera pas là-dessus. Là. J'y ai vraiment réfléchi longtemps, ce match-là. Hier, là, j'ai regardé un peu... Je voulais prendre les Chiefs, en fait, mais je peux pas. Pas juste parce que Mahomes est blessé, mais parce que en dehors de Mahomes, il y a pas beaucoup de choses qui se sont passées à l'attaque. Là. T'sais, c'est vraiment Mahomes qui est à la base de plusieurs des beaux jeux. Même Travis, tu sais, même Kelce a pas. On dirait qu'il a perdu un petit peu de sa moutarde. Là, t'sais. Pas pendant la saison, mais on dirait en série, il est un petit peu, je sais pas, je suis un peu déçu de ses matchs puis son énergie. Peut-être qu'il est blessé. Puis je veux pas être Homer, mais Tyreek Hill, là, toute la saison, les Chiefs ont dit qu'ils s'ennuyaient pas de Tyreek Hill, qu'il en avait pas besoin finalement, que tout le monde fait des verges puis qu'ils sont chanceux de pouvoir mettre n'importe qui avec le chandail de wide receiver puis qu'ils vont faire des verges pareilles. Je pense que ce sera pas le cas en fin de semaine. Je pense qu'il prendrait Tyreek Hill en fin de semaine pour des jeux plus courts, des jeux un petit peu plus trick. Là, ils vont leur manquer du punch à l'attaque. Puis ça, c'est pas ce qui manque du côté des Bengals. Là. On s'entend que ils ont même pas été obligés d'ouvrir leur livre de jeu au complet contre les Bills. T'sais. Ils ont tellement mis le match pas hors de portée, mais ils ont pris une avance importante rapidement. Qui ont tenu un livre de jeu plutôt restreint. Je pense qu'ils vont vraiment être bien préparés pour le match pour le Kansas City. Ils ont eu un match moins difficile que les Chiefs au point de vue physique. Même s'ils vont être sur la route, les Bengals, ils vont aller remporter ce match-là contre les Chiefs. Puis, je pense même pas que Joe Burrow va avoir à lancer 350 verges, là. Je pense qu'ils vont conserver un jeu au sol important qui a fonctionné d'ailleurs contre les Bills. Et victoire des Bengals, à mon avis, aussi. On rappelle l'over-under, c'est 46 en ce moment là pour 46 points. Les preneurs au livre prévoient 46 points total entre les deux équipes.
Pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Non, j'aurais tendance à y aller plus, mais on verra.
Les Eagles maintenant qui ont impressionné pas mal tout le monde lors de leur prestation que les Giants. Il n'y avait pas de rouille là-dedans, là. Puis Jalen Hurts, là, qui, tu sais, on se disait, en tout cas moi, je te parlais de sa mobilité, là, que je te disais que c'est ça qui va faire la différence. Ben, coudonc, il est vraiment, il est incommodé par aucune blessure, clairement, là.
Et pourtant, il a encore dit après le match que c'était douloureux. Je pense qu'il a dit ça à Peter King, qui était sur place, ou je sais plus à qui il l'a dit, là, mais il semblait dire que ça l'affectait, là, mais ça n'a pas paru. Il a très bien joué dans la douleur, disons-le comme ça, si c'est le cas. J'ai l'impression que c'est le genre de match où je souhaite vraiment pas de malheur aux jeunes. C'est une histoire super le fun, Brock Purdy, mais ça pourrait être le match où il pogne son mur, là. Parce que, comme je te disais tantôt, on l'a vu là, la semaine passée, ça a moins été facile contre les Cowboys, une équipe qui applique beaucoup de pression. Là, les Eagles, là, c'est le troisième plus haut total de sacs du corps dans l'histoire de la NFL. Tu sais, c'est pas des tout nus. Honnêtement, ils vont mettre la pression en répétition. Puis ce qui est fou des Eagles, t'as quatre joueurs qui ont obtenu au moins 10 sacs cette saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression, elle vient de partout. Ça veut dire aussi que tu es capable de rotationner tes joueurs qui aient des jambes fraîches au quatrième quart. Donc, la pression va être soutenue tout le long de la rencontre. C'est sûr qu'à l'avantage des Niners, par contre, ils ont une excellente ligne à l'attaque. Donc, il y a moyen de contrer la pression des Eagles. Mais les Eagles ont aussi une excellente tertiaire là, dans la défense contre la passe. C'est la meilleure de la ligue cette année. Donc, Brock Purdy, ça va être toute une commande. Tu peux pas là non plus dire « Ah ben, on va remettre le ballon à Christian McCaffrey puis il va courir à l'infini toute la game. » C'est sûr que les Eagles, en milieu de peloton, du côté de la défensive contre la course, là, mais quand même, c'est une équipe là, qui est capable de se défendre à tous les niveaux. À l'attaque, écoute, A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert, une panoplie de porteurs de ballon. Là, la semaine passée, les trois porteurs de ballon ont été efficaces. C'est sûr que c'est une autre paire de manches courir contre les Niners. Mais écoute, pour l'ensemble de l'œuvre, écoute, j'ai tendance à penser que les Eagles vont gagner ça. Tu sais, je te parlais de Purdy. On le sait, là, la stat est sortie la semaine passée. Quand ils ont gagné, c'est le cinquième quart recru dans l'histoire à faire partie de la finale de conférence. Pour la petite histoire, les quatre autres avant lui, une fiche de 0-4 en finale de conférence, quatre passes de toucher, 9 interceptions au total. Donc, ça montre à quel point le défi, plus t'avances dans la saison pour un quart recru, plus ça devient difficile. C'est là qu'il va peut-être frapper son mur. Je lui souhaite pas parce que c'est une belle histoire puis tout le monde tripe de le voir aller. C'est le fun, c'est rafraîchissant. Mais ça va être difficile contre les Eagles à Philadelphie. C'est un très bon club à la maison aussi, les Eagles. Donc, victoire des Eagles pour moi.
Il n'y a pas une fois où Brock Purdy a eu le devoir de ramener son équipe dans le match. Tu sais,
oui, contre les Raiders, il l'avait fait.
Mais il tirait pas de l'arrière par plus que 14 points. Là.
Non, de mémoire, non, là, mais c'est quelque chose comme 10 points.
Tu sais, je pense que Brock Purdy, il a eu la chance d'arriver dans un contexte idéal à San Francisco. Tu sais, que oui, là, il a du talent, il est cool. Je pense pas que c'est un gars qui a peur de la pression. Il a eu un peu de chance. Tout a bien été, il est arrivé dans une séquence victorieuse dans laquelle il a participé. Mais il n'y a pas eu à. Les gars n'ont pas eu à se retourner vers lui en disant là, aide-nous, là, tu sais. Là. Et je pense que les Eagles vont partir fort. C'est une équipe qui est bien préparée, les Eagles. À chaque début de match, on dirait que ils savent exactement où ils s'en vont. Il y a des équipes. C'est rare là, pour suivre la NFL depuis plusieurs années. Là. Une équipe sur deux minimum connaissent des débuts de match des fois qu'on se dit ouais, ils ont-tu pratiqué en fin de semaine, tu sais. Puis les Eagles, tu poses jamais cette question-là, à part peut-être la fois qu'ils ont joué contre Washington, puis encore. Je pense que les Eagles vont commencer fort et que le match va reposer sur les épaules de Brock Purdy. Puis Brock Purdy, la dernière semaine, c'était pas ça. Là, tu sais, là, tu l'as dit, les Cowboys ont une défense où ils mettent de la pression. Les Eagles ont une défense qui met de la pression. S'il n'a pas réussi à faire 20 points contre les Cowboys, il réussira pas à faire 20 points contre les Eagles. Puis les Eagles n'auront pas de difficulté à faire 20 points, même contre la défensive des 49ers. Puis un deuxième petit point aussi, la semaine passée, je mettais beaucoup d'emphase sur McCaffrey. McCaffrey qui a joué un petit match, là, tu sais, il a fait quelques apparitions à des moments clés où il est allé chercher des gros jeux. Mais j'étais un peu inquiet, là, tu sais, on l'est toujours avec McCaffrey, là, on le dit qu'il est fait un peu en porcelaine. Est-ce qu'il va être capable de jouer, d'être 30 fois sur le jeu, puis de prendre le ballon la moitié du temps ou même plus? Ainsi va McCaffrey, ainsi vont les 49ers. J'ai l'impression, moi, qu'il est embêté par des petites blessures pour toutes ces raisons. Je vais mettre les Eagles gagnants. Je pense qu'ils ont montré qu'ils étaient très impressionnants. Puis même que je trouve qu'une cote de 2.5, c'est pas assez. J'ai l'impression qu'elle va monter pendant la semaine. Si vous entendez ce podcast et qu'elle est toujours à 2.5, profitez-en. Aussi, on donne 46 points, hein, le over-under pour ce match-là.
Ben l'écart, en fait, reflète tout le respect que les gens ont pour la défense des Niners, là, quand même. Là. Moi, tu sais, on parle des Eagles qui n'ont pas vraiment de faiblesse, mais il faut le dire, là, les Niners, pour moi, c'est la meilleure défensive de la Ligue cette saison dans l'ensemble. Fait que ça me surprendrait que ce match-là soit pas serré, pour tout dire. Là. Mais bon, écoute, il n'y a pas de chicane dans la cabane cette semaine.
Non, exact. Mais tu sais que les Eagles, le seul match qu'ils ont perdu, là, c'était une comédie d'erreurs, de tirages dans le pied, puis tu sais, de jeux bizarres.
Ont... Oui, le seul match qu'ils ont perdu avec Jalen Hurts.
Oui, avec Jalen Hurts. Ouais. Mais tu sais, ils ont pas eu... Tu sais, il y a aucune équipe qui leur ont fait face qui était pas la meilleure équipe sur le jeu là, cette année. Mm-hmm. Tu sais, on a ri un peu de leur début de saison avec des équipes plus ou moins avec des fiches gagnantes là. Mais reste que les Eagles ont toujours été la meilleure équipe sur le terrain toute l'année là.
Ouais.
Je pense qu'ils vont l'être encore en fin de semaine.
Ouais, il y a vraiment beaucoup d'armes dans cette équipe-là. Là, tu sais, comme je te disais, quand t'es rendu à ton troisième porteur de ballon à la fin du match la semaine passée, puis qu'il s'en va chercher 100 verges ou à peu près, là, tout le monde court dans cette équipe-là. Tu sais, la grosse bataille pour moi, ça va être la ligne défensive des Niners avec Nick Bosa puis Eric Armstead contre la ligne à l'attaque complètement dominante des Eagles. Tu sais, honnêtement, la semaine passée, on se posait quand même des questions. On disait le front des Giants, là, avec Dexter Lawrence, avec Leonard Williams, avec Kevin Thibodeau. C'était quelque chose quand même. C'était une bonne commande. C'était pas autant que les Niners. Non, ils les ont écartés du match. Ça n'a pas été un facteur. Dexter Lawrence, on ne l'a pas vu. Puis pourtant, c'est un All-Pro là, cette année. Tout un travail du côté de la ligne à l'attaque des Eagles. Donc ça va être la confrontation déterminante dans ce match-là.
Bon, victoire des Bengals et des Eagles dans nos cas, ça marche. On vous invite à nous faire part de vos prédictions si vous voulez, toujours de la même façon. Vous pouvez nous écrire sur Twitter ou nous écrire sous le post du podcast sur nos précieux conseils de fantasy football. On va voir les résultats la semaine prochaine, mais en attendant, on fait une pause et on se retrouve après pour la chronique au bar. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure, I got a hangover, whoa. Cette semaine à la chronique au bar, on va envoyer, moi, écoute, je vais commencer, Steph, parce que j'ai vraiment été, je sais pas quoi te dire, là, mais j'ai pas été berné, moi. Contrairement à tous ceux qui font pas leur recherche, moi, je n'ai pas été berné par le petit jeu des Bills. J'ai vu clair dans leur jeu. Est-ce que tu sais que Damar Hamlin, là, supposément présent au stade, c'était en fait un double?
Ouais, j'ai vu ça passer.
Ce n'était pas Damar Hamlin, c'était une personne... pour le représenter, les Bills ont fait à croire que c'était Damar Hamlin. Est-ce que tu sais où se trouve réellement Damer Hamlin?
Avec Elvis Presley sur une île déserte?
Il est mort.
Mm.
Il est mort et tu sais de quoi il est mort?
Je t'écoute.
Du vaccin.
OK.
Il a été vacciné contre la COVID et il en est mort. Et là, les Bills et leur organisation nous font croire qu'il est vivant en engageant un double, une doublure pour nous berner.
Ça, c'est comme quand Paul McCartney était mort avec les Beatles aussi. Là.
Exact. Paul is dead.
Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Oui, monsieur. Je connais mes classiques. J'ai fait tourner mon disque à l'envers.
On entendait la voix du diable, il paraît.
Tu sais que le podcast de Carl Brandt, le Basement Podcast, le Carl Brandt Basement Podcast, qui est un podcast que je vois souvent paraître là, dans mes... Ouais, ouais. Puis il est quand même une crédibilité parce que Josh Allen y était... cette semaine.
Ouais, il a été obligé de démentir. C'était quand même assez spécial.
Incroyable, mais vrai.
Ouais.
Mais, il a dit que c'était faux. Que Damar Hamlin est bien venu au match, qu'il l'a vu dans le vestiaire et qu'il lui a parlé. Alors, qui croire, mon cher?
Ouais.
Est-ce qu'on croit Josh Allen qui dit qu'il a vu son coéquipier Damar Hamlin en chair et en os, ou la plupart des gens qui ont une connaissance fine de la façon dont faire des recherches sur Internet et qui savent que Damar Hamlin est en fait décédé du vaccin de la COVID.
Il faut toujours croire Twitter.
Alors, qui croire? Écoute, moi, je veux envoyer les Bills et la doublure de Damar Hamlin au bar. Parce que je pense qu'on n'est pas dupes, nous, les Québécois, par ailleurs, d'abord. Peut-être qu'on est les premiers à s'en être rendu compte. Mais Damar Hamlin, et la doublure de Damar Hamlin et les Bills, je les envoie au bar cette semaine. Et je vais leur dire de boire une bière sans alcool comme doublure à une bière avec alcool.
Oh boy.
Alors, Josh Allen là, qui dit « People need to stop this shit », mais il fera ses recherches. Josh.
Tu sais qu'il y en a qui vont penser que t'es sérieux.
Ben, j'espère qu'il y en a qui vont penser que je suis sérieux. Mais là, évidemment, c'est de la folie raide, là. Mais c'est quand même... toute une histoire. Écoute-moi, quand je voyais Damar Hamlin dans la loge à travers la neige,
je me disais,
ah, oh, pauvres eux autres, là, tu sais, il faut qu'ils fassent à croire, entre guillemets, que c'est Damar Hamlin, parce qu'on le voit pas, là. On se doute que c'est lui, évidemment. Mais on le voit pas. Puis je me disais, y a-tu des gens assez fous qui vont penser que c'est une conspiration de mère nature avec les Bills pour pas qu'on voit Damar Hamlin? Puis là, je riais dans ma barbe en me disant « Il n'y a jamais personne d'assez fou pour penser ça. » Et pourtant, Josh Allen a été obligé de démentir le fait que ce n'était pas une doublure de Damar Hamlin, mais c'était bien Damar Hamlin qui était présent au match.
Two, he was in the locker room with us pre-game. So, yes, that was Damar. There's absolutely zero chance. There's absolutely zero chance. That's
okay.
Damar Hamlin. That's our guy. That's our brother. He was with us pre-game, post-game, he was up in the suite with his family, his little brother, 100%. So, people need to stop.
I got it.
Stop this.
Quoique, j'aurais pensé qu'il les aurait inspirés un petit peu plus que ça. Alors, c'était peut-être en effet une doublure, parce que le vrai Damar Hamlin aurait peut-être porté ses Bills à la victoire après avoir passé à travers la mort sur le terrain. Ça n'a pas été suffisant. De ton côté, mon cher, qui envoies-tu au bar?
Oh boy, ça c'était captivant, c'était quelque chose. Tu nous as amené dans un univers parallèle. Moi, je vous ramène sur Terre, mais on va quand même parler de médias sociaux. Les Cowboys, puisqu'on est dans les clubs endeuillés, tiens, on va rester là. J'ai été assez surpris. Les gestionnaires des médias sociaux des Cowboys après le match. Qui ont, tu sais, à cette heure maintenant, toutes les équipes ont leur gestionnaire de médias sociaux, puis ils écrivent des articles sur leur site, puis généralement, tu sais, c'est des articles assez inoffensifs parce que tu travailles quand même pour l'équipe, donc c'est pas là que tu vas avoir les affaires les plus crunchy, mais le Twitter officiel des Cowboys, là, pas une imitation, pas un compte qui a été piraté, rien de tout cela, le Twitter officiel des Cowboys, après le match, titrait « Dak Prescott a donné deux fois le ballon à l'adversaire dans une défaite serrée, dans un duel que les Cowboys pouvaient gagner s'ils ne se tiraient pas dans le pied. » Écoute, t'envoies ton corps arrière en dessous de l'autobus, c'est pas faux ce qui est dit. Je dis pas que c'est truffé de mensonges puis que ça a pas d'allure, mais il reste que t'es une équipe, puis tu envoies un message comme ça à l'endroit de ton propre corps arrière. Bonjour la confiance, bonjour le respect. Puis, écoute, là je parle des gestionnaires de médias sociaux, mais si t'es Jerry Jones, si t'es le directeur, son fils qui est le directeur gérant Stephen Jones, si t'es Mike McCarthy, le coach, si t'es n'importe qui de sérieux et de crédible dans cette organisation-là, tu vas aller voir ta gang de médias sociaux et tu vas leur dire « Écoute, faites pas ça, là. Là, on est en train de planter notre corps arrière. C'est quoi cette affaire-là? On est quand même une équipe. Faut quand même que ça reste sérieux, cette histoire-là. » Mais non, on a laissé faire ça. Ça roule toujours. C'est encore sur Twitter. C'est assez particulier. Moi, personnellement...
Les commentaires doivent être beaux.
Ben, je suis même pas allé voir, mais ça doit être l'enfer. Puis,
ce qui reste, que Dak Prescott, il mettons qu'il fait pas l'unanimité. Même chez les gestionnaires de médias sociaux. Ben,
là, ce qu'on commence à se demander, c'est ce qui fait l'unanimité même chez les Cowboys. Là, parce que c'est assez spécial de le pointer du doigt directement comme ça. Moi, c'est la première fois que je vois ça, personnellement. Là.
Une équipe qui plante
son propre joueur. Ben là, le gars qui a fait ça, puis l'organisation en général... J'ai trouvé, on trouve toujours un nom qui nous épate, là. Moi, je m'y connais pas tant en cocktail pour tout dire. Fait qu'à chaque fois, je google un nom en me disant, mais non, ça existera pas. Ben oui, ça existe.
Oui, donc?
Le cocktail self-destruct. Donc, un cocktail autodestruction. C'est tout simple, c'est facile à expérimenter à la maison. Donc, on dit 3 mesures de vodka. Je sais pas c'est quoi 3 mesures, mais allez-y comme vous avez soif. Du triple sec. Une cuillère à soupe, du jus de lime, une cuillère à soupe et de la glace. J'imagine que ça fesse pas mal, donc de là le terme autodestruction, là, surtout la quantité des mesures de vodka qui est à votre discrétion. Mais j'ai trouvé que c'était assez autodestructeur justement là, de la part des Cowboys de dire à tout le monde, d'exposer à la face du monde à leurs centaines de milliers de fans. Écoutez, on a perdu aujourd'hui à cause de Dak Prescott. C'est assez spécial.
Merci. Nos pensées accompagnent les partisans des Cowboys.
Et des Bills.
Et des Bills. Et on vous souhaite des bons matchs de finale de conférence. C'est dimanche à partir de 15h, si je ne me trompe pas, les matchs de... Toi, tu seras à Philadelphie.
Ouais. 15h pour Eagles-Niners, 18h30 pour Chiefs-Bengals à KC.
Merci à vous d'avoir été là. Merci à toi, Steph. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone Payante. Merci. Bye.